Très bien. Je crois que nous sommes prêts. Nous allons commencer notre webinaire et lancer l'enregistrement. La réunion est maintenant enregistrée. Merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur les accords d'accréditation des bureaux d'enregistrement afin d'inclure les obligations contractuelles relatives au processus et aux procédures de vote du protocole d'accès aux données d'enregistrement. Je m'appelle Carl Atkinson. Je suis avec Daniel Gordon. Nous faisons partie de l'équipe Global Accounts qui fait partie de l'équipe des domaines de la stratégie. Également aujourd'hui, nous serons rejoints par Rick Wilhelm, qui est directeur technique du registre public Information. Il représente le groupe de parties prenantes des registres GTLD. Nous aurons également une avocate, Catherine Merdinger, de Identity Digital, qui représente le groupe des parties prenantes des bureaux d'enregistrement. Ils font tous deux partie de l'équipe de négociation de la Chambre des parties contractantes. Donc, quelques points également logistiques. Le stream audio dans Zoom sera en anglais. Pour écouter et parler en anglais pendant la session, joignez-vous à Zoom. Si vous souhaitez écouter et parler en arabe, chinois, français, russe, portugais ou espagnol, ou si vous avez des problèmes de connexion sur l'Internet, veuillez vous joindre par l'intermédiaire de la passerelle téléphonique du centre de conférence Adigo. Vous avez toutes les informations à l'écran devant vous. Vous devez également rejoindre la session Zoom pour suivre la présentation, pour voir les commentaires ou les questions dans le chat et pour utiliser la main levée avec une icône pour demander la parole. Donc, mettez votre audio en sourdine dans Zoom. Merci pour qu'il n'y ait pas d'écho pendant la session. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un petit peu d'historique. Nous allons parler des obligations contractuelles RDAP. Nous allons parler du calendrier de transition pour le protocole RDAP à partir de WHOIS. Nous allons parler des procédures de vote, des seuils d'approbation et nous aurons ensuite des questions-réponses. Alors, un peu d'historique avant que l'on parle des amendements, des amendements globaux. Donc, comment en sommes-nous arrivés donc au protocole RDAP? Donc, ce n'est pas une nouvelle conversation, vous le savez. Depuis 1982, l'IETF avait lancé le protocole WHOIS et en 2011, dans la communauté de l'ICANN, il y a eu des débats au sujet d'une mise à jour des protocoles WHOIS, avec notamment SAC 51, qui a parlé du manque de soutien dans l'internationalisation, dans l'accès sécurisé aux données, l'accès différencié et également des requêtes standardisées, des réponses et des réponses qui existaient parfois au niveau des erreurs. Donc, SAC 051 a conseillé à la communauté ICANN d'adopter un remplacement pour le protocole WHOIS et le conseil d'administration de l'ICANN a adopté cet avis. Il y a une obligation au niveau du contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement de mettre en place ces nouveaux protocoles pour que nous produisions un standard, pour que l'IETF produise un standard. En mai 2018, le conseil d'administration de l'ICANN a adopté des spécifications temporaires requérant que RDAP ait le profil RDAP. Et en août 2019, les parties contractantes ont dû mettre en œuvre RDAP. Il y a des amendements proposés au contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement également pour les registres. Il y a une terminologie qui existe déjà dans l'amendement global. Ces termes ont été négociés avec l'ICANN par des équipes provenant des groupes, des représentants des opérateurs de registre et des bureaux d'enregistrement, comme je l'ai mentionné auparavant. Il y a cette équipe de négociation. Il y avait trois concepts principaux. Il y avait les critères opérationnels pour fournir donc les services d'annuaire de données d'enregistrement RDDS par l'intermédiaire du RDAP, du protocole d'accès aux données d'enregistrement des noms de domaine, en passant par les protocoles WHOIS et pour permettre à l'ICANN d'accéder aux données existantes, pour avoir un accès groupé aux données d'enregistrement des noms de domaine, BRDA. Les obligations contractuelles proposées on inclut donc pour le RA et le RAA, donc le profil RDAP auquel on devait s'adapter et qu'on devait respecter, des définitions mises à jour pour les termes en rapport avec le RDDS en ce qui concerne les temps de mise en œuvre, en ce qui concerne également les niveaux de services exigés pour que le RDDS, par l'intermédiaire des protocoles OS, sur une période de 18 mois à partir de la mise en vigueur, de la date de mise en vigueur de l'amendement. Il y a également des demandes pour les bureaux d'enregistrement de fournir RDAP à partir de leur propre base de données pour tous les domaines étant sous gestion, domaine LGTLD, et pour qu'il y ait un accès aux données, pour que l'ICANN puisse utiliser ces données pour des recherches. De plus, dans le cadre de la négociation, nous voulions également gérer SSAC 97 en rapport avec les incohérences dans les requêtes de RDDS. Donc, il y a des termes qui ont été rajoutés au contrat d'accréditation. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec WHOIS? Donc, le WHOIS ne va pas disparaître. L'amendement proposé change la technologie sous-jacente à partir des protocoles WHOIS, à partir du port 43 de WHOIS et du WHOIS basé sur le web, avec RDAP qui est beaucoup plus solide. Il y aura toujours ces services OS qui continueront à être fournis par les registres GTLD et les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN en accord avec les politiques de consensus et normalisées de l'ICANN. Il y aura peut-être des moments où les parties contractantes vont continuer à utiliser le WHOIS avec les obligations contractuelles suivantes. S'agissant d'avoir les obligations contractuelles minimales, par exemple pour offrir les services d'annuaire de données d'enregistrement WHOIS en accord avec RFC 3912, soumettre des requêtes de changement aux fonctions de l'IANA avec l'opérateur des fonctions de l'IANA en ce qui concerne les données qui doivent être biffées. Dans le cadre des spécifications temporaires, il y a également des critères en rapport avec les champs supplémentaires pour l'affichage et pour le nommage. Fournir moins de données d'enregistrement dans les services WHOIS que disponibles à RDAP, eh bien là, il faut qu'il y ait donc une indication de limitation de responsabilité à ce niveau en utilisant l'outil de recherche de l'ICANN. Alors, les procédures d'amendement vont se faire comme suit, comme on peut le voir à l'écran, pour ce processus d'amendement global. C'est le même processus qu'on avait utilisé en 2017, mais c'est la première fois qu'on utilise ce processus pour mettre à jour le RAA. Et c'est la première fois que nous avons les deux accords qui doivent être approuvés de cette manière et au même moment. Donc, nous avons donc des amendements proposés pour les commentaires publics, donc entre septembre et novembre, et nous nous lançons maintenant dans la prochaine phase, la période de vote de 60 jours, qui va commencer le 19 janvier et se conclure le 20 mars 2023. Il y aura ensuite la considération de l'amendement par le conseil d'administration de l'ICANN. Et si approuvé, il y aura donc, après 60 jours, une date de mise en vigueur des amendements. Nous allons avoir des conversations séparées en ce qui concerne les accords sur les GTLD pour les obligations RDAP. Donc, au niveau du calendrier, la transition du WHOIS au RDAP, comme je l'ai mentionné auparavant, à la suite de l'annonce de ICANN.org, il y aura donc une période de 60 jours, il y aura ensuite la mise en vigueur, il y aura une période de lancement de 180 jours qui va débuter, et une fois que cela est effectué, eh bien, il y aura toujours des exigences de niveau de service. Il y aura une période de status quo, si l'on veut. Et il y aura une application donc, des seuils d'urgence. À la suite de cela, du jour 181 au jour 540, eh bien, on retirera les seuils d'urgence pour les services OIS. Et là, à ce moment-là, on aura les nouveaux seuils RDAP. Ensuite, nous aurions une période de temporisation du WHOIS et nous aurons des exigences de niveau de service pour RDAP qui vont à ce moment-là s'appliquer, ainsi que des seuils d'urgence. En ce qui concerne les processus de vote et les procédures, je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations. Je m'arrête maintenant quelques instants pour voir s'il y a des questions. Eh bien, je ne vois pas de main de levée et nous allons donc pouvoir poursuivre. Daniel. Non, je confirme qu'il n'y a pas de questions. Daniel Gordon au micro. Carla Canson au micro. Je vais maintenant donner la parole à Daniel et lui redonner la parole pour parler des procédures de vote. Merci, Carla. Bonjour à toutes et à tous. Durant cette partie de la présentation, je vais vous parler de la période de vote et des procédures de vote. Nous allons commencer par quelques rappels. La période de vote s'ouvre le 19 janvier 2023 à 17 h UTC. Elle dure 60 jours calendaires et se clôture le 20 mars 2023 à 23 h 59 UTC. Je sais que durant cette période, il y aura de nombreuses communications. Il y aura l'ICANN 76, la réunion ICANN 76 qui va se dérouler en mars. Et nous allons voir comment le vote se déroule. Nous allons donc nous assurer que les parties contractantes et la Chambre des parties contractantes peuvent, s'ils le désirent, donner plus de temps pour le vote. Et ça peut être une période de plus de 60 jours, s'ils le désirent. Donc, le 4 janvier, nous avons envoyé un avis juridique aux contacts principaux et on va recevoir dans l'avenir proche des communications supplémentaires à ce sujet aux contacts principaux, primaires, à leur adresse e-mail. On va leur rappeler que le vote est ouvert au niveau des registres et des bureaux d'enregistrement. Et pendant tout le processus de vote, nous allons envoyer chaque semaine des rappels au sujet de la période de vote à ceux qui n'ont pas encore voté. Et cela inclura un lien pour voter. De plus, en plus de ces rappels hebdomadaires, eh bien, l'ICANN va poster des mises à jour sur les progrès du vote qui sont anonymisés, ce sur la page web ican.org. Et enfin, nous aurons des communications finales concernant les résultats du vote. Alors, la gestion du vote. Le vote sera administré par un prestataire de service, une partie tierce, qui s'appelle VoteNet, par l'intermédiaire de la plateforme e-ballot. C'est la même plateforme qui soutient actuellement les votes concernant les frais annuels pour les bureaux d'enregistrement et les enquêtes concernant les parties contractantes. Les questions seront simples, ce sont des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Et nous allons envoyer une invitation pour voter au contact principal par entité d'opérateur de registre pour le RA et par famille de bureau d'enregistrement pour le RAA.
Chaque partie contractante a droit à un vote. Diapo suivante, s'il vous plaît, merci. Alors, comment avoir accès à la plateforme de vote? Comme je l'ai dit auparavant, au début de la période de vote, la plateforme elle-même va envoyer un mail au contact primaire avec des informations et un lien direct pour avoir accès au scrutin en ligne. Ce scrutin en ligne, vous pouvez y avoir accès par l'intermédiaire d'un portable ou de tout dispositif ayant des capacités de navigateur. Vous voyez, vous ici une capture d'écran qui vous montre le genre de mail que vous recevrez avec les indications et le lien vers le scrutin en ligne. Une fois que vous cliquez sur ce lien, vous serez renvoyé sur le système de ce fournisseur et on vous demandera de bien vouloir lire les conditions générales en termes de transparence. Vous cliquez sur « J'accepte », puis sur « Suivant » pour passer aux options de vote. Une fois que vous arrivez sur cet écran de vote, on vous pose une question très simple. Vous choisissez « Oui » ou « Non ». Pour approuver les changements proposés, vous cliquez sur « Oui ». Si vous les refusez, vous cliquez sur « Non ». Et une fois que vous aurez voté « Oui » ou « Non », vous cliquez sur « Suivant » pour vérifier votre vote. Et vous voyez sur la droite des instructions avec un petit rappel, un petit résumé des amendements proposés. Et un lien qui vous renvoie directement sur les amendements proposés. Les opérateurs de registre de marque voteront séparément au sein d'un même scrutin. Vous pouvez voir l'exemple à l'écran avec deux questions qui seront posées donc aux opérateurs de registre de marque. Donc, eux seront amenés à voter d'abord sur les amendements par rapport aux accords de registre et par rapport à la section spécification 13. Donc, ensuite, vous arrivez sur un écran où il y a un récapitulatif de votre vote. Vous vérifiez que c'est bien ce que vous avez voté. On vous redemande de nouveau d'accepter les conditions. Et si vous vous apercevez que ça n'est pas ce que vous vouliez voter, vous pouvez revenir en arrière. Et si c'est ce que vous avez voté, vous appuyez sur « Suivant ». Une fois que vous avez voté, vous serez renvoyé vers un écran où vous voyez la confirmation de votre vote, un numéro de confirmation, la date et l'heure à laquelle on a reçu votre vote. Ce qui conclut donc la présentation sur la procédure et processus de vote. Alors, sachez qu'il y a une option, ça n'est pas obligatoire, mais il y a la possibilité de modifier votre vote après coup. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien envoyé dans le mail original et ça vous renvoie directement sur le système. L'interprète s'excuse, l'audio de Daniel Gordon s'entrecoupe, nous n'arrivons plus à l'entendre. Donc, vous voyez sur l'écran un bouton qui vous indique « Changer mon vote ». Donc, vous pouvez modifier votre vote et le renvoyer. Enfin, je voulais vous renvoyer vers quelques ressources supplémentaires que nous avons, notamment une foire aux questions en termes de vote. Première question. Que se passe-t-il si vous ne recevez pas l'email de la plateforme e-ballot contenant le lien pour voter? D'abord, nous suggérons que vous vérifiez votre dossier indésirable dans vos mails. Et si ce mail ne se trouve pas dans indésirable, assurez-vous de vous tourner vers votre service informatique pour vérifier le mail disponible pour que e-ballot vous envoie le mail de vote. Et vous pouvez voir ces votes concernant les amendements sur le site web du vote des amendements 2023. Si vous avez des problèmes pour trouver ce mail, vous pouvez toujours envoyer un mail sur le portail ou nous envoyer un mail à nous avec pour sujet problème pour la réception du mail pour voter sur la plateforme e-ballot, pardon. Et je crois que j'en ai fini avec la présentation sur les processus et procédures de vote. Je vais faire une pause pour voir s'il y a des questions. Bien. Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Nous allons passer à la section suivante. Seuil d'approbation et éligibilité. Alors, qui peut voter? Sur quel changement? Alors, pour les amendements proposés au RAA, donc contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement, ce sont les bureaux d'enregistrement qui ont un accord actuel, accord d'accréditation avec l'ICANN, qui peuvent voter. Pour les changements au contrat de registre avec les opérateurs de registre, ce sont les opérateurs de registre applicables qui peuvent voter, c'est-à-dire ceux qui ont des dispositions qui figurent dans l'accord de base avec l'ICANN. Et enfin, s'agissant de la spécification 13, ce sont les opérateurs de registre de marque qui sont autorisés à voter. Et je vous rappelle que les opérateurs de registre de marque peuvent voter sur l'accord de registre comme sur la spécification 13. Alors, comment obtenons-nous l'approbation de la part de ces deux parties? Quels sont les seuils à dépasser? D'abord, il faut s'assurer qu'il y a un large soutien pour ces changements avant qu'ils entrent en vigueur. Donc, dans le cas des opérateurs de registre, pour approuver les changements aux accords de base, nous avons besoin de l'approbation des opérateurs de registre qui représentent 2/3 des montants totaux payés. Donc là, on voit les chiffres pour 2022. Et outre ces frais, ou 2/3 de ces frais, on a également besoin d'une majorité de 50% des opérateurs de registre. Et je rappelle que c'est un vote par accord de registre avec opérateur de TLD. Et même chose dans le cas des opérateurs de registre de marque qui votent sur le RA, ainsi que sur la spécification 13. S'agissant à présent du seuil d'approbation pour les bureaux d'enregistrement, là encore, l'idée, c'est de s'assurer qu'il y a large soutien à ces changements et conformément à la section 1.18.1 du contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement, nous avons besoin de l'approbation de 90% des opérateurs des bureaux d'enregistrement applicables sur le nombre total de domaines sous gestion. Ce vote se fonde sur les frais des bureaux d'enregistrement et cela s'applique au domaine sous gestion. Donc, il faut que plus de bureaux d'enregistrement votent pour que l'on puisse atteindre et dépasser ce seuil de 90%. Petit rappel, le calcul pour la pondération des voix des bureaux d'enregistrement pour dépasser ce seuil d'approbation se fonderont sur le rapport de transactions des bureaux d'enregistrement. J'aimerais vous rappeler les principales dates clés à venir. Donc, je vous l'indiquais, ouverture des votes 19 janvier jusqu'au 20 mars 2023, une fois que cette période de vote arrive à échéance. Nous vous enverrons les résultats et les tableaux et partagerons avec vous les résultats finaux d'ici fin mars, début avril 2023, une fois que ce sera fait. Nous soumettrons les amendements proposés pour considération au conseil d'administration de l'ICANN. S'ils sont approuvés au mois de mai ou juin, l'ICANN devrait envoyer une notification juridique aux opérateurs de registre, opérateurs de registre de marque et bureaux d'enregistrement. Et comme indiqué, s'ils sont approuvés, ils entreront en vigueur dans un délai de 60 jours. Ce qui conclut notre section sur les seuils d'approbation. Et je vais faire une pause pour voir s'il y a des questions. Carla Hackenson au micro, je ne vois pas de main levée ni de questions sur le chat. Daniel Gordon au micro, très bien. Alors, je suppose que l'on peut revenir sur le calendrier ou l'horaire prévu pour la fin de cette réunion. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous êtes invité également à aller sur notre site web, Carla au micro. Nous avons également un enregistrement de cette réunion et nous avons une autre édition de cette réunion à 18h UTC aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions à nous poser, vous êtes tout à fait les bienvenus cet après-midi pour revenir pour la deuxième séance. Merci à tous et à bientôt. L'enregistrement est terminé.